Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous revoici donc pour des lectures en liberté et nous allons, si vous le voulez bien, pour terminer cette semaine, lire deux extraits d'une œuvre de Michel Lebris, Un hiver en Bretagne. Il descendait vers la mer, au pas lourd de son cheval, le buste droit, le poing sur la hanche, et les ajoncs caressés par le vent se penchaient sur son passage. Les derniers touristes avaient depuis longtemps déserté la grève de Tréhouren, rendue au silence des bateaux échoués. Une odeur forte de sel et d'iode montait des goémons jetés sur le rivage par les houles d'équinoxe, et l'on aurait dit dans la solitude retrouvée de l'automne, libérée de l'agitation des foules estivales, que l'espace reprenait ses véritables dimensions, et nous avec lui. Une lumière rase sculptait des formes brutales à la pointe du fort. La mer, lisse, était comme en attente quand il apparaissait sur les hauteurs de Tilouzou. Sa silhouette un instant se découpait sur le ciel, puis il s'enfonçait derrière les broussailles, avant d'envahir la grève d'une même coulée puissante. Et moi, du haut de mes 10 ans, caché derrière un rocher, je le regardais, bouche bée, prendre possession de son royaume. Le soleil allumait des presqu'îles de lumière sous ses pas, tandis qu'il passait en revue les bateaux aux corps morts, vieux grognards usés par tant de campagnes, penchés sur leurs béquilles, et les mouettes elles-mêmes demeuraient silencieuses, tandis qu'ils s'avançaient le poitrail droit vers la mer immobile et le large. J'aurais voulu bouger, courir vers lui, crier. Mais le silence pesait sur moi comme une pierre. Un effroi sacré me serrait la poitrine et j'aurais juré que j'assistais par privilège, sinon par effraction, à quelque rituel venu du commencement des temps. Les formidables épousailles du cheval et de la mer. Puis il remontait la plage, toujours du même pas. Job d'œuf de Tilouzou accru sur son cheval de trait. Sa silhouette se découpait un instant sur le ciel avant de disparaître, et c'était comme si une page du poème du monde se refermait doucement, offerte à moi seul. L'ombre bleue s'était arrêtée au rivage de l'île Stérec. Une fumée montait droite dans le ciel au-dessus de Carantec. Et l'on aurait dit en cet instant que le temps lui-même retenait son souffle. Pourquoi ces images me reviennent-elles soudain si fortes que j'en tremble à l'entrée de la grève? La baie cet après-midi paraît vide jusqu'au large, et vide l'horizon. Un soleil roux nimbe d'or les goémons, allume des incendies dans les fougères du Cosquer et les marais d'Ajon. Une fumée d'herbe brûlée monte droite, très loin au-dessus de Sanson. Et pas un bruit. Rien. À peine un souffle au ras des eaux tranquilles. Oui, c'était exactement ainsi ce jour où Job d'œuf descendit à la mer. Ce même silence et cet espace. Et il me semble alors, sur ce chemin entre Térénèse et Saint-Sanson, inlassablement arpenté depuis des décennies, devant les roches usées, presque à force d'être regardées, que je m'avance à la rencontre de la mer pour la première fois. Pour la première fois depuis les émerveillements de mon enfance. Comme si je revenais à mon tour prendre possession des lieux. Des odeurs de terre montent des plis humides des talus. Les feuilles des saules se teintent d'ocre et de brun. Un je ne sais quoi de grisant flotte dans l'air, d'algues battues et de feuilles qui annoncent l'automne. Demain, les gens seront dehors, de nouveau. On pourra s'arrêter au bord des talus pour bavarder de tout et de rien. Du sentier pédestre qui va finir par s'effondrer sous le piétinement pressé des touristes. Des ormeaux qui reviennent, à ce que l'on dit. Des crevettes moins nombreuses cette année, et puis, surtout, de la paix revenue. Les paysans qui, tout l'été, jouent aux boules derrière le café de la Forge, à l'abri des touristes et des photographes en quête de pittoresques, pourront enfin sortir de leur cachette. Quant à ceux qui ont eu la chance de voir enfants, petits-enfants, frères, cousins, neveux et nièces se rappeler à leurs bons souvenirs en plantant qui leur tente, qui leur caravane dans la prairie, près du jardin, ceux-là, saoulés de cris, de bruits, brisés par les lessives, épuisés par le rituel sacré des repas familiaux, eux aussi reprendront vie, demain. Mais pour l'heure, on dirait que chacun, et jusqu'au paysage, étourdi encore par le tumulte de l'été, n'aspire qu'à reprendre ses esprits. Comme s'il nous fallait, à tout moment, pour nous reconnaître, retrouver notre dimension. Je me blottis au creux d'un rocher blond. Est-ce moi qui l'ai à ce point usé qu'on le dirait aujourd'hui un fauteuil ? Quand le soleil se lève au-dessus de Cosquer le matin et que l'ombre glisse encore sur la frange de sable, on le croirait bleuté, mais ce soir, il rayonne d'une lumière douce, chaude, qu'égale les paillettes de mica, les éclats brefs des feldspaths et des quartz. Je ferme les yeux, laisse le silence monter à ma rencontre. Le silence, ce n'est pas l'absence de bruit, le blanc d'un rien, non. Le silence est peuplé de mille sons. Il vit et nous éveille. Simplement, le silence est la disparition du brouhaha, du bruit de fond, de ce qui rend à chacun les êtres et les choses informes, indifférenciés, et peu à peu, j'entends comme un battement d'ailes, le chuchotement léger de l'eau qui glisse sur le sable, le frisolis d'une vaguelette, le pétillement des fucus séchés par le soleil qui reprennent vie à l'avancée de la mer, le jet brusque d'une coque ou d'un couteau. À quelques milles, au large, vers le Vesoul, quelqu'un a parlé, que je ne vois pas. Ce froissement de métal peut être une faucille qu'on aiguise vers Sanson. Si je réussissais à rester ainsi assez longtemps, mais peut-être faudrait-il plus de paix en moi, j'entendrais, j'en suis sûr, le glissement des méduses à fleur d'eau, les plongées brusques des comatules, le piétinement pressé des étrilles au loin, comme à n'en pas douter les entend François de Penandour quand il garde ses moutons appuyés à sa crosse de berger, immobile des heures durant face à la mer. Qui ne connaît l'histoire de ce moine traversant une forêt profonde qui entend un oiseau chanter, s'arrête un instant pour l'écouter et se retrouve à son retour étranger à son monastère. Son absence a duré 50 ans. Ainsi, toute vie qui ne se veut pas seulement végétative se tisse-t-elle de ces deux fils, voulait croire Stevenson. La quête de l'oiseau et son écoute. À moins qu'en cette attente, je devienne une pierre, un rocher de plus sur la grève de Tréhouren, que le vent et les vagues peu à peu s'effriteront jusqu'au sable effacé par la mer. Je tressaille. L'eau est à mes pieds. Le soleil a disparu derrière les terres basses du Léon. Stérec n'est plus qu'une masse bleue. On dirait les îlots de monstres endormis dans les draps gris-argent de la mer. Un vent froid s'est levé sans que j'y prenne garde. Sensation aiguë, tout à coup, d'être de retour. À chaque fois, je la retrouve le cœur battant. Passé la forge de Kermébel, je dévale le même chemin bordé de broussailles. La ferme n'est plus, qui faisait toute la vie du manoir du Cosquer. Les ormes qui l'enserraient dans un écrin sont morts pour la plupart et tordent vers le ciel des moignons désolés. Mais qu'importe. Je cours jusqu'à ce coin de champ que je connais bien, et si par malheur... Mais non. Elle est toujours là, qui se découvre d'un coup jusqu'au large. Les champs qui dégringolent dans la grève de Tréhouren, l'île Estérec, presque à portée de main, le château du Taureau, au front bas et massif, la flèche de Saint-Paul, orgueilleuse au-dessus du fouillis des îlots, et puis, tapis au ras de l'horizon, l'île de Batz, très loin. Mon royaume, inchangé, de la baie de Morlaix. Je reste un instant étourdi. Dieu, que c'est beau. Et puis la douleur revient. Ma vieille douleur qui me scie bras et jambes. J'avais 14 ans. Je venais de passer une année à Versailles comme pensionnaire au lycée Hoche, moi qui n'avais jamais dépassé les frontières de Plougasnou sinon pour quelques rares promenades scolaires. Et c'est à cet endroit où, j'ai la gorge encore qui se serre d'émotion, que tout me fut donné, d'un coup, à mon premier retour ou retiré, selon le point de vue. La découverte de la beauté et la douleur. Jusque-là, cette baie, je l'avais habitée. J'étais une partie d'elle et elle était en moi. Mais belle, non, elle était mienne. J'ai su ce jour-là de quel prix se payait cette découverte, que seul est trouvé beau ce qui se peut mettre à distance parce qu'on ne l'habite pas ou plus. Belle, donc, pour moi, cette baie, depuis ce jour fatal où je m'en suis éprouvé orphelin. Et cette blessure-là, je sais qu'elle ne se refermera jamais.
Les pommiers fleuris du printemps et la grêle de temps en temps sur les talus la blanche épine, la tige fine qui s'incline, les ajoncs de la roche Bernard, beauté prise dans un regard. Par chance et aussi par vouloir, je dors en Bretagne ce soir. L'abeille sur le liseron blanc et en surface d'océan, l'évanouissement des vagues, l'ombre d'un chemin qui zigzague, la graine déjeunait craquant, en plein midi au bord des champs. Par chance et aussi par vouloir, je dors en Bretagne ce soir. Les bruines de l'arrière-saison. Voilant des ports sans horizon, une sirène qui résonne, portant mélancolie d'automne. Le galop fou du vent salé sur l'infini des monts d'arrêt. Par chance et aussi par vouloir, je dors en Bretagne ce soir. L'onglet du pêcheur est tripant, le poisson sur le pont glissant. L'alignement mégalithique que fait reluire la pluie oblique et un peu de neige parfois qui blanchit l'ardoise des toits. Par chance et aussi par vouloir, je dors en Bretagne ce soir.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Après ce moment de musique, nous revenons au texte de Michel Lebris, Un hiver en Bretagne. Il est des lieux qui vous retiennent captifs. Puis il en est d'autres qui vous sont comme des portes. J'ai perdu ce qui m'était ici une demeure, et plus peut-être que vous l'imaginez. Car j'ai vu un monde mourir sous le prétexte de progrès. Mais à quoi bon? À qui faire comprendre, s'il ne l'a pas vécu, ce que cela peut signifier? D'avoir connu un temps sans électricité, sans eau, sans route bitumée ni tracteur, sans radio ni touriste, puis de l'avoir vu s'en aller, et une part de soi-même avec lui. Disons que seule reste la porte qui m'a sauvé. Je descends le sentier du Cosquer jusqu'à la mer et Épinadour. Ma maison natale est là, collée à la grève, solitaire. À mi-chemin entre les fermes basses de Saint-Sanson, dos tourné au grand large, et le petit port de Térénèse où j'écoutais enfant les mots magiques lâchés par les marins au comptoir du bistrot. Pas un recoin, pas un caillou, pas un lieu qui ne garde pour moi les traces d'histoire évanouie, de fantômes en allée. C'est ici, par le chemin de Tilouzou, que Job d'œuf, royal, descendait ses chevaux à la mer. Là, au printemps, que remontaient les charrettes chargées à blocs du goémon coupé vers les roches jaunes, et là, que Job, Paul et Olivier passèrent un été les yeux vagues à tailler et retailler le même talus, tandis qu'à deux pas des femmes s'exposaient nues. Je veux parler bien sûr de nos premières touristes dans leurs maillots de bain à la plage. Mais pas un lieu non plus qui n'a été hanté par mes rêveries, pas un lieu qui ne m'ait ouvert un jour ou l'autre un monde. Le vent, l'hiver, s'engouffrait en hurlant dans la baie, faisait trembler les volets clos. Les falaises de Saint-Sanson se couronnaient d'écume et j'étais Alan Breck, le héros de Stevenson, sur la dunette du Covenant. Slack Claymore à la main qui massacrait ses ennemis en chantant. Ou bien, avec quelques complices, je sautais dans le brave Courly, un canot à misaine, pour prendre enfin d'assaut le château du Taureau ou explorer Stérec, notre île au trésor, et son mystérieux souterrain. J'arpentais le rivage. Dans le tournoiement des goélands braillards, des cargos glissaient massifs dans la passe du Taureau, la proue des remorqueurs s'enfonçait dans la lame. Mais est-ce moi, ainsi, qui peuplait Térénès de mes rêves ou bien le jeu du vent et des vagues qui me formaient, m'ouvraient au grand poème du monde. Je sais au moins une chose, que je suis né ici, de cette histoire inachevée entre terre et mer, et que cela, jamais, ne pourra m'être ôté. La voile brune hésite, faceille à peine un soupir, les haubans craquent doucement, tandis qu'avec François Hervé, patron de pêche, je remonte des trémailles entre Manou et Menmeur. Les pénombres de l'aube alentour prennent des couleurs lavandes, les hauts de Saint-Sanson se crêtent de rose pâle, une risée effiloche les écharpes de brume. Et tout à coup, le banc de nage s'irise de nacre, de rubis, d'éclats de pierres précieuses. Un long frisson parcourt l'étendue et tout explose, s'embrase, dans un chatoiement incroyable de couleurs, rien que la fraîcheur d'un matin clair dans la baie de Morlaix, et j'aurais juré pourtant qu'en cet instant, précisément, c'était l'univers entier qui s'offrait à moi pour la première fois. Presque rien, vous dis-je. Toute la beauté du monde. Quel étrange entêtement sans cesse me ramène vers ce rivage. Veux qu'inlassablement je reprenne les mêmes gestes, les mêmes pas, comme s'il me fallait répéter quelques mystérieux mandalas supposés me conduire vers où ? Parfois il me semble n'avoir jamais voyagé au plus loin que pour retrouver tout le reste oublié qui nous empêche de voir, us, coutumes, fatigues du quotidien, les émerveillements de mon enfance, cette ivresse légère de se sentir tout à coup traversé, le temps d'un éclair, le temps d'une fraction d'éternité par le poème du monde. Le cri d'une tourterelle triste dans la douceur d'un soir, à Santispac. Le sillage d'un canoë sur les eaux claires de l'Ontario, un matin, l'odeur du désert, au lever du jour dans la lointaine Baja, ou les cris de lumière après l'orage sur le Kai of Lollar. Tous ces moments de grâce ne l'ont été, je le sais bien, que parce qu'ils me ramenaient au plus près des éblouissements de mon enfance. Mais que je revienne ici, sur ce chemin que j'emprunte à l'instant, que l'horizon, passé la pointe du fort, se déploie devant moi, et voilà qu'aussitôt je l'entends, cette note accordée à moi seul, qui longuement résonne dans les lointains et m'appelle, voilà qu'une nostalgie me prend à me dévorer l'âme de royaume en allée qui me serait Bretagne. De tous les mystères du cœur humain, il n'en est pas de plus insondable, s'étonnait déjà Stevenson. Quelle fièvre étrange tout à la fois nous ronge de nostalgie et nous précipite sans trêve vers les quatre horizons. Ah ! Entendre dans un pays lointain une voix que je sais de mon sang entonner « Oh ! Pourquoi ai-je quitté mon pays ?» Et il me semble que jamais aucune beauté sous les cieux ne saurait me récompenser d'avoir laissé tout cela derrière moi. C'est ce mystère aussi qui me ramène à ces rivages. L'énigme de cette blessure, l'été de mes 14 ans que j'explore et ravive. Elle aurait pu me détruire, je me suis reconstruit à partir d'elle. Expulsé du paradis, jamais plus je ne serai ce jeune sauvageon vibrant au rythme du monde sans la moindre distance. Je finis par comprendre qu'il me faudrait désormais pour les éprouver de nouveau et encore par éclair un travail. Celui de l'écriture et de l'imaginaire. Puis me vint que cette blessure, malgré la singularité des circonstances, n'en renvoyait pas moins à une expérience originaire, un peu à la manière dont une note de musique qui vous prend par surprise et vous bouleverse, dont vous jureriez sur l'instant que vous l'entendez pour la première fois, éveille au plus secret de votre mémoire de lointains échos. Il fallait donc bien qu'elle fût en vous déjà, pour que vous l'ayez ainsi reconnu avec cette poignante intensité, comme si votre âme tout entière s'y trouvait engagée. Et c'est votre passé dès lors qui s'impose à vous sous un autre visage, ce chaos d'émotions, de couleurs, de sons que l'on appelle l'enfance, qui s'ordonne en ligne de chants insoupçonnés. Oui, cette note bleue qui en cet instant encore m'émeut jusqu'au tréfonds était en moi, sans que j'y prenne garde, et depuis l'origine, dans cette nostalgie qui me précipitait sur le rivage à chaque voile glissant vers le large, dans ces rêves d'ailleurs dont je peuplais la baie, dans ce tourment qui me faisait rester des heures face à l'horizon vide, l'intensité de ma présence au monde ne l'avait été qu'à proportion d'un sentiment d'exil tout aussi vif et troublant. Il y a un autre mystère, à moins qu'il ne s'agisse du même sous un autre aspect. Comment se peut-il que dans le chaos indifférencié de la matière, quelque chose puisse s'imposer à nous comme un lieu? Après tout, il se pourrait que la création ne soit que tumulte, sans plus de forme ni de sens. Nous croyons voir autour de nous ce qui se passe quand des monstres sans visage rampent sous nos pas, broient, déchirent, se déchirent, sans que nous en ayons seulement conscience. Ce jardin dont nous goûtons la paix est un champ de bataille. Penchons-nous seulement vers ces fleurs si belles, et chacune de leurs feuilles nous apparaît dévorée, trouée, sucée, déchiquetée par une armée de meurtriers invisibles. Chaque animal sauvage n'est d'abord que cicatrice, pustule dans un tournoiement de fureur et d'épouvante. Observez les insectes, la monstrueuse stupidité des insectes, leur inconcevable cruauté, et vous doutez bientôt de la création. Mais les humains ont-ils grand-chose à leur envier, en Bosnie et ailleurs? Nous tâtonnons, aveugles, à la surface du monde, précipités dans un jeu cruel dont nous ne connaissons pas les règles, si tant est qu'il y en ait, guère plus que des pantins mus par nous ne savons qui. Se peut-il que le texte de la pièce ne soit que brouhaha, bruit de fond, le vacarme d'une armée de fous analphabètes tapant chacun au hasard sur leur clavier? Révoltés par tant de cruauté, nous serions prêts de le croire si un autre mystère ne nous arrêtait aussitôt. Qu'à moins de supposer une hallucination collective, il nous semble bien reconnaître de loin en loin des fragments de ce texte, une mélodie, bref, qu'il y a ici-bas, malgré tout, quelque chose comme de la beauté. Et il se pourrait même que nous n'ayons que cela à opposer aux ténèbres, aux puissances du chaos, accueillir en nous la beauté du monde, la prolonger, et peut-être même y ajouter ce miracle par lequel un espace indifférencié dans le tumulte du monde apparaît pour chacun comme un lieu. De là peut-être, de tous ces enjeux sous chaque mot, qu'il est si difficile d'écrire sur la Bretagne, de là qu'elle suscite chez les siens et ailleurs tant d'attachements vrais et tellement de querelles. Vieille maladie bretonne, dira-t-on, si bien connue de tout, recuite de colère, d'amour blessé, de ressentiment, qui veut qu'on se déchire en son nom sous le prétexte de la défendre. Bref, j'ai voulu dire un peu de la beauté du monde. Et s'il arrive que des lecteurs y reconnaissent quelques-uns de leurs paysages ou même les échos d'une musique qui vaudrait pour la Bretagne entière, cela ne pourra donc être que comme une grâce, par surcroît. Cette lecture est maintenant terminée et elle a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette lecture en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir et à la semaine prochaine.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.